Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power 19, 19 comme Covid-19, le magazine des industries culturelles et du numérique au ton du coronavirus, émission réaménagée autour des conséquences économiques du fait de l'épidémie sur la culture jusqu'à la fin juin. Au sommaire de cette émission Soft Power, ce soir, politique, culturelle, médias et numérique, comme chaque semaine. Politique, culturelle d'abord, avec une actualité riche entre les statues déboulonnées, les autant en emporte le vent déprogrammés, les manifestations antiracistes. On en parle avec Michel Guérin du journal Le Monde et Zoé Sfez de France Culture. Notre invité média ce soir est Jean-David Blanc de la plateforme de distribution de programmes télé en streaming Molotov. Au moment même où l'audiovisuel français tente de lancer Salto, un inévitable concurrent. État des lieux des forces en présence avant cette guerre franco-française annoncée. Numérique ensuite au sommaire de cette émission ce soir avec les géants du numérique qui semblent prendre leur distance avec les outils de reconnaissance faciale pour la police notamment. Et puis Twitter qui suspend 150 000 comptes considérés comme pro-chinois. Pourra-t-on enfin encore regarder, c'est un troisième sujet dans l'actualité numérique ce soir, pourra-t-on encore regarder du porno sans passer par un VPN? On en parlera également avec Emmanuel Paquette. Le grand témoin ce soir est Nicolas Brien de France Digital, une association qui regroupe les start-up françaises et qui reviendra sur le grand bond numérique français que nous sommes en train de vivre selon lui. Si on ajoute un sujet sur les podcasts qui sont en plein boom et les musiques de The Strike, Trey Songz et Lady Antebellum, qui se rebaptise Lady A. Voilà pour le sommaire de Soft Power ce soir. Cette émission réalisée par Perret Legras avec en régie Alexandre Dang. Émission préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux David Pata. Vous pouvez suivre Soft Power sur Twitter, au mot-clé justement Soft Power, ainsi que sur Facebook, LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme, c'est parti. Just gotta get some things off my chest. Tough times, I hope y'all holding up. We'll be alright, cause we always is. But I'm feeling like this. How many mothers have to cry? How many brothers gotta die? How many more times? How many more times? How many more marches? How many more signs? How many more lives? How many more times? Je commence cette émission ce soir par ce nouveau single qui vient d'être rendu public du chanteur américain Trey Songz, entre gospel et rap, qui fait écho aux manifestations américaines ces dernières semaines contre le racisme. Le morceau est intitulé 2020 Riots How Many Times, sur les émeutes antiraciales en cours, et le chanteur, qui a lui-même connu des démêlés complexes avec la police et fut condamné à de la prison avec sursis, prend la parole sur ce titre dans le débat sur la question des races aux États-Unis, un véritable hymne à la question noire face à la police américaine. Pendant ce temps, en France, les médias semblent hésiter entre plusieurs lignes et plusieurs storytelling. Ce qui se passe aux États-Unis en ce moment n'aurait aucun rapport avec la France pour certains médias. Au contraire, pour d'autres, l'affaire George Floyd, qui est clairement de l'ordre du racisme pur, hein, des violences policières et même d'un crime raciste, se confondrait avec la situation française en général et l'affaire Adama Traoré en particulier. La police française serait proche de la violence raciste de la police américaine, donc deux points de vue opposés et semble-t-il irréconciliables.
Dans une contre-enquête parue ce week-end dans Le Point, le journaliste montre la complexité de l'affaire Adama Traoré pour en fait tenter de disculper la police. Il était toxicomane, d'un éthylisme chronique, violent, multirécidiviste, à la santé vulnérable et il fut même accusé de viol. Parallèlement, une autre enquête, publiée dans Le Monde également ce week-end, fait exactement le constat inverse. C'est un article plutôt à charge contre la police, avec à chaque ligne, fût-ce en édulcorant ou oubliant certains faits, la défense des arguments de la famille Traoré. Nicolas Chapuis dans Le Monde cherche la vérité, mais d'abord cherche à accuser la police. Marc Le Plongeon dans Le Point utilise le même procédé, mais lui pour accuser Adama Traoré. Enfin, sur le plateau de Quotidien de Yann Martès cette semaine, Assa Traoré, la sœur charismatique d'Adama, mais peu soucieuse de vérité, a fait une prestation peu convaincante sur les faits et a critiqué les journalistes de l'équipe de Yann Martès. Elle accuse aussi les médecins d'être des charlatans, je cite. À tort, car Quotidien a montré que c'est Assa Traoré qui se jouait des faits et donc de la vérité. Yann Martès avait en fait marginalisé Assa Traoré dans son émission, donnant la parole dans une belle interview le même soir à Christian Taubira. Magnifique d'ailleurs sur ces sujets. Alors n'est-ce pas le rôle des médias dans cette période de débat légitime sur le racisme mais aussi d'outrance verbale d'un camp et d'un autre de calmer le jeu? Yann Barthès a eu raison d'inviter Assa Traoré sur le plateau de Quotidien, mais raison aussi de corriger ses erreurs, même si en tant que sœur de la victime, elle a le droit de penser un peu à la façon d'Albert Camus, entre mon frère et la justice, je choisis mon frère. Mais les médias, eux, ne peuvent agir ainsi. On rêve d'un jour où Le Monde publiera une vraie enquête qui ne soit pas à charge contre la police et où Le Point publiera lui aussi une vraie enquête qui ne soit pas à charge contre Adama Traoré. Les faits, tous les faits, rien que les faits, sans présupposé ni parti pris dans une affaire qui reste en réalité très peu claire, à la différence de celle concernant George Floyd et de ses 8 minutes 46 secondes d'agonie filmées dans une vidéo vue par des millions de personnes. Une vidéo qui n'existe pas, en tout cas pas pour l'instant, dans le cas Traoré, ce qui devrait tous nous inciter à la prudence. Nous verrons tout à l'heure, à 20h, si le président de la République parle comme Le Monde, dans une sorte de propos pro-Traoré, ou s'il parle comme Le Point, dans le même aveuglement, mais cette fois en faveur de la police. Espérons qu'il arrivera à trouver les mots pour unir les Français derrière deux combats qui devraient pouvoir être menés de front. Une critique du racisme et des faits de racisme, y compris et d'abord dans la police, qui doivent être sanctionnés. Une inspection générale de la police qui doit être réformée. Mais aussi le refus des amalgames entre une affaire américaine clairement raciste et une affaire française qui reste confuse et dont les faits ne sont pas encore établis. Demander justice pour Adama, c'est demander, oui, demander justice. C'est-à-dire la vérité des faits autant que cela est possible. Mais justice ne signifie pas la culpabilité de la police par principe. Par principe non plus, sa déculpabilité. Soft Power France Culture en direct, il est 18h20. On commence par la culture et la politique de la culture avec beaucoup de questions cette semaine. Politique de la culture pour commencer cette émission donc avec plusieurs sujets. Michel Guérin du journal Le Monde et juste avant Zoé Sfès de France Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Frédéric.
On commence avec vous par Autant emporte le vent, le film tant aimé devenu le grand mal aimé.
Oui, avec une longue séquence ces derniers jours qui fait un peu écho à ce que vous racontiez, avec une question qui se pose à l'aune des manifestations qui ont lieu en ce moment. Faut-il ou pas déboulonner les instruments culturels qui ont construit le monde d'avant? Et puis faut-il ou pas importer le débat en France? Comment est-ce qu'on l'importe ou pas? Je rappelle les faits. Le 8 juin, le scénariste John Ridley, scénariste américain, qui a travaillé notamment sur le très puissant, très beau film 12 Years a Slave, publie une tribune dans le Los Angeles Times dans laquelle il demande qu'on se penche enfin sur le cas Autant emporte le vent. Je ne vous fais pas le topo, Frédéric, vous le savez, c'est le film de Victor Fleming de 1939 qui reste à ce jour, il faut le dire quand même, le plus successful de l'histoire du cinéma. C'est à l'échelle des sous, le film qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire du cinéma, qui était annoncé triomphalement au catalogue de la nouvelle plateforme HBO Max, cette plateforme qui se lance aux États-Unis, dont Emmanuel Paquette nous a souvent parlé ici dans Soft Power. Et le scénariste dénonce dans cette tribune, comme bien d'autres avant lui, il faut le dire, depuis plusieurs dizaines d'années, la manière dont Le film dépeint, je cite, les horreurs de l'esclavage de manière romantique et dépeint surtout les Noirs américains de manière caricaturale. Il demande ouvertement à la plateforme de retirer le film en question et, je cite, d'attendre une durée respectueuse avant de le remettre en ligne avec d'autres œuvres qui donnent une image plus complète de ce que l'esclavage et la Confédération sudiste, donc, étaient vraiment. Et la requête a été entendue puisque, dès le lendemain, HBO a retiré le film de la publication avec l'idée, là encore, en annonçant ce qu'on appelle une recontextualisation. Alors, pourquoi on parle de ce film? Évidemment, pour ceux qui aiment ce film, comme c'est mon cas, il y a évidemment le personnage très problématique de Mama, incarné par Hattie McDaniels, qui est lui-même un gros morceau en soi, qui a une histoire un peu compliquée, puisqu'il a valu à son interprète le premier Oscar attribué à une actrice noire. Oscar, donc, qui a permis d'offrir une visibilité aux acteurs noirs, qui étaient très sous-représentés à Hollywood à l'époque. Et d'ailleurs, c'est là que tout se colmate, puisqu'il y a une série aujourd'hui qui s'appelle Hollywood, qui a Hattie McDaniels comme personnage principal et qui met justement en relief la difficulté pour ces acteurs à cette époque d'exister. Mais il faut aussi le rappeler, Hattie McDaniels, elle a reçu son Oscar à l'époque sans pouvoir être attablée avec l'équipe du film. Elle n'a même pas pu assister à la première puisqu'elle avait lieu dans un cinéma où les Noirs n'étaient pas les bienvenus, et elle a été cantonnée, y compris après avoir reçu cet Oscar, dans 54 rôles sur 74 à des rôles de domestique tout au long de sa carrière cinématographique. C'est un personnage qui évidemment incarne beaucoup de choses, mais il y a aussi le personnage du grand Sam, qui est un espèce de grand géant idiot, celui de Millie, la jeune esclave stupide et inconséquente, qui sont tous très attachés à la fameuse famille O'Hara, y compris d'ailleurs une fois que l'esclavage a été aboli dans le film. Recontextualisation donc nécessaire, tout le monde semble-t-il s'accorde à le dire, y compris, enfin particulièrement aux États-Unis, mais en fait le débat très vite s'est invité en France, puisqu'il y a le film, mais il y a aussi le livre, qui est, alors on le dit souvent, plus raciste encore peut-être que le film, et ce livre il est tombé dans le domaine public cette année, ce qui a permis eh bien de proposer une nouvelle traduction en français chez les éditions Gellmeister par Josette Chiche-Portiche, donc une traduction là encore, et elle l'expliquait quand elle était l'invitée d'Olivia Gesbert dans la grande table cette semaine, pour Josette Chiche-Portiche, eh bien de proposer une autre lecture de ce roman qui, et la personne jamais ne le niera, à d'immenses qualités, une autre traduction, parce que la seule qui existe aujourd'hui, c'est celle de 1939, parue chez Gallimard, avec pour traducteur Pierre-François Caillé, qui, et c'était l'un des points d'achoppement les plus importants, fait notamment parler toutes les personnes noires du roman en remplaçant les sons R par une apostrophe. Ce que la traductrice dit vouloir ne pas conserver, alors elle dit s'être inspirée de la manière dont Maupassant ou George Sand font parler les paysans avec un espèce de style un peu chantant pour essayer de traduire ces dialogues entre les personnages noirs. Recontextualisation donc nécessaire, puisque par ailleurs Gallimard lui aussi propose une version enrichie. Mais alors pourquoi est-ce que je parle d'une importation en France? Eh bien parce que vendredi, le Grand Rex, donc le cinéma parisien, annonce eh bien que la projection de Temps en emporte le vent qu'il avait prévue pour le 23 juin pour la grande réouverture des cinémas, eh bien cette projection sera annulée à la demande du studio américain Warner qui possède les droits. La Warner Bros nous indique qu'elle souhaite annuler la projection. Merci de votre compréhension. Donc pas d'argumentaire de la part du Grand Rex, pas non plus d'argumentaire de la part de la Warner, mais tout de suite immédiatement une réaction on va dire extrêmement tonitruante du ministre de la Culture Franck Riester, qui tweet immédiatement « La déprogrammation du film Autant en emporte le vent au Grand Rex est incompréhensible, elle est inadmissible. La France défendra toujours la liberté de création et de diffusion des œuvres comme l'égalité, c'est le cœur de nos valeurs. » Il y a évidemment aussi des tribunes en France, beaucoup s'offusquent de ce qu'on appelle une censure, notamment par exemple l'avocat Emmanuel Pierra, qui est un spécialiste de la censure, qui signe une tribune aujourd'hui dans le journal du dimanche « Autant en emporte la censure ». Qui s'indigne évidemment du traitement fait selon lui à Autant en emporte le vent sur HBO, qui rappelle que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, grand chef-d'œuvre de la littérature américaine de Harper Lee, a été banni des écoles américaines parce que le terme nègre y est employé, et rappelle par exemple que l'objet de ce livre c'était précisément de combattre le racisme, donc il y a erreur et que la censure n'est pas une solution. Peut-être peut-on répondre et à Franck Riester et à Emmanuel Pierra qu'en fait dans aucun des deux cas il n'y a censure, puisque recontextualisation, ça n'est pas censuré. HBO l'a dit, l'a répété, et d'ailleurs le scénariste le demandait aussi. Il ne s'agit pas ici de supprimer Autant en emporte le vent, d'autant plus que le film raconte aussi la manière dont les préjugés racistes se sont implantés dans la société américaine, mais bien de le recontextualiser. Quant à la déprogrammation au Grand Rex d'Autant en emporte le vent, il ne s'agit absolument pas d'une censure, puisque c'est le studio qui décide, et c'est sa liberté de diffusion, de retirer le film. Et là, c'est intéressant, parce qu'il s'agit effectivement d'un cinéma français, mais c'est un studio américain, et on peut tout à fait imaginer que ce studio, s'il avait été su, eh bien, qu'il annonçait triomphalement Autant d'emporte le vent à Paris en s'étant troublé, peut-être que le studio, lui, aurait pu faire l'objet de critiques. Et donc, là, peut-être faire attention à ne pas importer, justement, une décision qui est bel et bien, on peut le dire, américaine.
Débat parallèle, Zoé Sfez, en ce qui concerne les opéras, où les chœurs d'esclaves sont nombreux. Par exemple, dans Aïda de Verdi, faut-il corriger ici encore l'histoire ?
Eh bien, alors ça, c'est un vaste débat. Je vous invite et je partagerai ce tweet à lire les nombreuses questions et les nombreux débats qui existent aujourd'hui autour de la question du blackface sur les scènes européennes et sur les scènes américaines. Pourquoi la question se pose ? Eh bien, parce que le Metropolitan Opera de New York, comme quasiment toutes les institutions américaines, il faut le dire, ces dernières semaines, s'est fendu de plusieurs tweets en soutien au mouvement Black Lives Matter, et que plusieurs internautes, eh bien, ont pris à partie l'institution en expliquant que cette prise de position n'était absolument pas suffisante, et en rappelant que en 2018, le Met avait choisi une mise en scène d'Aïda, mise en scène où la grande soprano russe Anna Netrebko était peinte littéralement en noir. C'est ce qu'on appelle le blackface. Alors le blackface, de quoi parle-t-on ? Là encore, c'est une pratique qui vient du théâtre, qui vient précisément du vaudeville américain, qui a eu ses heures de gloire au début du 20e siècle, et qui consistait en fait à déguiser un acteur blanc en personne noire, en lui peignant le visage, et le plus souvent pour donner naissance sur scène à un personnage noir tout à fait caricatural. Donc là, il s'agit encore de tout un pan de la culture américaine empreinte d'une vision raciste systémique. Ce qui est intéressant, finalement, c'est le retour de cette question du blackface à l'opéra, qui a été très souvent posée autour d'un personnage qui est beaucoup plus emblématique, celui d'Othello. Vous savez, grand personnage de répertoire, qui a quasiment, on a toujours recruté des chanteurs blancs, que bien souvent on a peint. La question avait été réglée au Met en 2015, puisque le Met avait décidé, pour la première fois, de renoncer au blackface pour le personnage d'Othello. Ça n'a pas été le cas pour celui d'Aïda. Et aujourd'hui, il semblerait que le public, une partie du public, attend des prises de position beaucoup plus fermes de la part d'une institution comme le Met. D'autant plus que cette question du blackface pointe une question fondamentale. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de chanteurs noirs aujourd'hui castés dans ces rôles, sur des rôles aussi importants ? L'idée là, c'est de dire, soit on caste des ténors noirs ou des sopranos noirs, soit quand on ne le fait pas, on ne recourt pas au blackface. Le Met a décidé de ne pas retirer cette vidéo de son site. Ça fait partie des vidéos que le Met avait soumis gratuitement en attendant de pouvoir reprendre sa saison en décembre 2021, mais indique dans un communiqué, eh bien, que l'institution va œuvrer davantage pour soutenir l'égalité raciale et saura, je cite, reconnaître les erreurs du passé. Alors là, on peut aussi se poser la question de ce qu'il en est à l'Opéra de Paris, où la question n'est toujours pas tranchée, alors que plusieurs institutions allemandes, par exemple, ont décidé volontairement de cesser d'avoir retour au blackface. La question s'est posée il n'y a pas plus tard que 2 ans à l'Opéra de Paris, où sur une mise en scène, on peut le dire par ailleurs assez malheureuse, de la Traviata par Benoît Jacquot, mise en scène qui se voulait être une digression autour du tableau de Manet Olympia, avec sa fameuse serveuse noire, ou servante noire, et où la chanteuse qui incarnait la domestique, qui était par ailleurs arménienne, eh bien, elle aussi faisait l'objet d'un blackface. L'Opéra de Paris avait à l'époque soutenu les choix de son metteur en scène.
Pour terminer avec vous, Zoé Sfez, toujours en matière culturelle, le ministre de la Culture, Franck Riester, qui a annoncé un plan d'aide à l'édition et à la librairie cette semaine, 230 millions d'euros pour aider un secteur fragilisé.
Oui, mais alors on a quand même envie de parler des bonnes nouvelles quand elles ont lieu. Samedi, c'était la fête de la librairie indépendante, fête qui normalement a lieu en avril et qui a eu lieu samedi. Pour le moment, les premiers retours sont plutôt très bons. 480 librairies françaises, belges et luxembourgeoises qui ont célébré cette fête et qui en avaient bien besoin. Et donc, vous l'avez dit 2 jours plus tôt, Bruno Le Maire et Franck Riester ont annoncé un plan qui, en gros, permet d'engager 230 millions d'euros sur toute l'année 2020 et 2021 en faveur des libraires, mais mais aussi des maisons d'édition, c'est très important. Un fonds de soutien de 25 millions d'euros qui va être confié au Centre National du Livre va permettre notamment aux librairies indépendantes de faire face à des problèmes de trésorerie très immédiats qu'ils ont, puisqu'on le sait, les librairies ont cette très grande particularité d'avoir à la fois très peu de marge avec le prix unique et bien souvent des loyers extrêmement élevés, notamment en centre-ville et notamment à Paris où elles sont très nombreuses. Il y a une enveloppe de 12 millions d'euros qui va les aider notamment à se moderniser et à améliorer leur plateforme de vente à distance. Ça, c'est un point crucial puisque les librairies devraient à terme pouvoir expédier des livres dans un cadre, je cite, concurrentiel équitable. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est une façon d'adresser la manière dont Amazon a pris quand même beaucoup, beaucoup de place pendant ce confinement, s'il y avait encore une place à prendre. Parce qu'on peut le regretter, on peut d'abord se réjouir que le public soit revenu massivement dans les librairies, mais on peut aussi regretter qu'évidemment la question du confinement et du déconfinement est passablement alourdi une chaîne du livre qui est déjà extrêmement complexe. On sait le rôle très important des retours des invendus dans les librairies et on peut aujourd'hui constater à Paris que beaucoup de librairies ont des étals quasiment vides et que pour plusieurs demandes, il faut attendre une semaine, parfois deux, pour pouvoir obtenir un livre qu'on a commandé. On peut par exemple regretter l'absence de certains livres très attendus, le Elena Ferrante, nouvelle Elena Ferrante, plus ou moins absent d'une partie des librairies parisiennes, et on ne trouve pas les livres d'un homme comme par exemple Albert Memmi, grand romancier, grand penseur, notamment de la domination, qui non seulement pourrait nous aider à penser les choses aujourd'hui, mais nous a quittés le 22 mai dernier. Nous lui rendrons hommage bientôt sur France Culture. Même chose pour les livres qui ont été les plus demandés pendant le confinement, notamment La Peste de Camus, qu'en tout cas dans l'Est parisien, on ne trouve toujours pas. On espère évidemment que ce plan d'aide, non seulement aux librairies, mais aussi aux éditeurs, portera ses fruits. Du côté du secteur du livre, on se réjouit, mais on dit qu'on restera vigilant et demandera peut-être plus de soutien si d'ici la fin de l'année, la question n'est pas réglée.
La vie mensongère des adultes, nouveau livre d'Elena Ferrante, que pour le coup, moi, j'ai réussi à acheter, j'ai trouvé dans une librairie, donc on le trouve. En revanche, Albert Memmi, en effet, était assez absent, spécialiste du racisme, de l'antisémitisme et de la colonisation, du dialogue aussi entre les religions. Je conseille d'ailleurs son livre, La statue de sel, qui avait été à l'époque préfacée par Albert Camus. Merci, Zoé Sfez, pour cette émission. À dimanche prochain. Politique de la culture encore, avec maintenant Michel Guérin, journaliste au Monde, autour d'une actualité également riche sur la culture. Cette semaine, vous vous êtes partagé, Michel Guérin, les sujets avec Zoé Sfez pour continuer sur ces thématiques avec vous. On commence par ce débat complexe et hystérisé ces derniers jours des statues des grands hommes, souvent d'ailleurs des hommes, déboulonnés et parfois même, on l'a vu, jetés à la rivière. Bonsoir Michel Guérin.
Ah oui, bonsoir. Oui, c'est vrai que c'est un débat hystérisé. Et ça, c'est depuis que George Floyd est mort étouffé par un policier le 25 mai à Minneapolis. Les États-Unis, mais il y a aussi d'autres pays, la Grande-Bretagne, la Belgique, la France peut-être demain, voient nombre de sculptures qui sont dégradées ou mises à terre. Alors la raison n'est pas esthétique, hein, on n'est pas au musée, là on est dans la rue. L'auteur de la sculpture, tout le monde s'en fiche, le style aussi. Le problème, en fait, en effet, ce sont les personnalités de ces hommes qui sont sculptés et placés dans la rue. Car il faut savoir que le déboulonnage, c'est quand même une histoire très ancienne, hein, et c'est souvent lié à des basculements politiques. Mais là, c'est tout nouveau, c'est lié, en fait, à la question communautaire, le fait que la sculpture et la statue soient des symboles de la colonisation, de l'esclavage et du racisme. Du reste, on l'a vu là, à peine début juin, à Richmond, en Virginie, une statue de Christophe Colomb a été décapitée, incendiée et puis jetée dans un lac. Tout ça pourquoi? À cause de son action sanglante envers les Amérindiens. Alors, il est vrai que ces statues sont plus des objets de mémoire que d'histoire. Elles glorifient plus qu'elles portent un récit historique. Et il est vrai aussi que nombre de personnages qui sont sculptés ont une partie de leur vie qui peut poser problème, en tout cas pour certains et même pour tout le monde. Alors, en fait, le problème, c'est que déboulonner maintenant, c'est pas une décision collective, municipale ou de l'État, mais en fait elle est sauvage. Et donc quand c'est sauvage, c'est où arrêter le curseur, où ça peut s'arrêter. Et on a quelques exemples intéressants, par exemple une sculpture de Churchill a été affublée du mot raciste, mais on oublie qu'elle était aussi centrale dans la lutte contre le nazisme. En France, c'est Colbert qui est visé. Pourquoi? Parce qu'il a écrit le Code noir qui organise l'esclavage aux Antilles. Mais on oublie qu'à cette époque, personne ou presque ne s'émeut d'esclavage. Mais le pire exemple, je pense, c'est Victor Schœlcher, qui a eu deux statues brisées en Martinique. alors qu'il est le père de l'abolition de l'esclavage. Et c'est vrai qu'il était colonialiste, mais qui ne l'était pas à l'époque? Jules Ferry était colonialiste aussi. En fait, toute la plupart des progressistes de l'époque sont colonialistes au motif qu'ils veulent apporter du bonheur, entre guillemets, aux gens colonisés. Bon. Donc à ce rythme, tout peut y passer, ou presque, en tout cas toute l'histoire, Moyen-Âge, Ancien Régime, aux États-Unis évidemment aussi. Mais on oublie, par exemple, toutes les personnalités qui sont antisémites. Alors là, la liste devient évidemment sans fin. Le risque de tout ce mouvement, c'est l'anachronisme, hein, on le sait, c'est-à-dire on juge le passé avec nos valeurs d'aujourd'hui. En fait, l'histoire a toujours des valeurs, ce sont les valeurs qui changent. Et puis, je crois que ce n'est pas en se vengeant sur la pierre, mais en la faisant parler, cette pierre, qu'on fait bouger une société, car il faut la faire bouger. Il y a des alternatives, par exemple, à la destruction. Le plus simple, c'est quand même de mentionner les méfaits d'une personnalité par une plaque que l'on appose sur la sculpture. Donc il y a un vrai travail collectif à faire, et puis il y en aura peut-être un autre débat qui va être lancé avec toutes ces statues, c'est qu'il y en a 4000 dans l'espace public en France, et 3% seulement sont des femmes.
Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Michel Guérin, je cite sur ce sujet la formule de George Orwell dans 1984, « Les livres avaient été réécrits, les statues, rues et immeubles avaient été renommées, les dates avaient été modifiées, l'histoire s'était arrêtée ». Autre sujet ce soir, celui de l'Opéra de Paris, une institution symbole, modèle de la culture française, qui ne va pas aussi bien qu'on le croyait. Michel Guérin, ce qu'atteste la démission cette semaine de son directeur Stéphane Lissner.
En fait, il part, Stéphane Lissner, le patron de l'Opéra de Paris, part 6 mois plus tôt. Il va partir à la fin de l'année 2020, alors qu'il devait partir en juin 2021. Il part pourquoi? Il le dit déjà, il y a un déficit abyssal de 45 millions d'euros. Mais pourquoi il y a ce déficit? C'est pas tellement lié à son action, c'est lié au fait que nombre de spectacles ont été perturbés ou n'ont pas pu être donnés pour des raisons qui se sont enquillées les unes derrière les autres. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu ensuite les grèves à cause de la réforme des retraites, et le personnel de l'Opéra de Paris a fait grève, et puis il y a eu le Covid-19. Tout ça a fait les uns derrière les autres, voilà le résultat. Or, l'équilibre des comptes pour l'Opéra de Paris tiennent beaucoup au fait de pouvoir jouer devant une salle pleine et qui paye cher. Alors évidemment, quand vous ne jouez plus et que vous devez payer le personnel, etc., voilà où on en est. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce que dit Stéphane Lissner dans un entretien au Monde qui a été publié le 11 juin. Il se lâche, Stéphane Lissner. Il attaque énormément des syndicats, alors pas tous, mais il dit que certains syndicats, pendant la grève des retraites, ont continué à faire cette grève en janvier, alors que les métros avaient repris et que les trains circulaient à nouveau. Il dit aussi que des syndicats faisaient grève parfois, se mettaient en grève 30 minutes à peine avant la tenue d'un spectacle. Vous imaginez un peu pour le public ce que ça signifie, mais qui est présent, et puis aussi pour évidemment les artistes sur scène. Mais deux commentaires quand même. C'est pourquoi Stéphane Lissner parle aussi librement et durement. Tout simplement parce qu'il est déjà ailleurs. En fait, on sait depuis octobre dernier qu'il allait rejoindre l'Opéra de Naples. Et on le sait d'ailleurs que même depuis le 1er avril, il est déjà à Naples. En fait, il est déjà dans deux maisons en même temps. Et donc, quand ça va mal, quand une maison va mal, qu'en plus vous avez une grève, que vous devez négocier avec le personnel pour essayer de le faire revenir au travail, c'est pas simple de le faire, je pense, quand on a un pied dans une maison et un autre pied dans l'autre. Surtout que Stéphane Lissner, au début du conflit, c'est-à-dire en octobre sur les retraites, il avait soutenu le personnel, et notamment les danseurs. Et donc, c'est peut-être pas simple, en effet, d'arriver à pouvoir négocier justement dans cette situation, mais qui arrive dans beaucoup d'opéras, les opéras, ça se programme très très longtemps à l'avance, et donc, il arrive souvent qu'un patron d'opéra soit dans deux maisons pendant une période assez courte. Mais cette affaire aussi me fait penser à autre chose, peut-être ça va être difficile à dire, mais est-ce qu'il ne faut pas en profiter pour renégocier la convention collective de l'Opéra de Paris, fermer, faire une saison blanche pendant quelques mois et revoir tout ça? Parce que cette convention collective, la Cour des comptes et des enquêtes de presse ont montré qu'elle est quand même très 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 avantageuse pour les personnels. Est-ce qu'il ne faut pas en profiter pour repartir sur des nouvelles bases? On sait que le personnel se met souvent en grève aussi, pourquoi? Parce qu'il sait que l'État va toujours soutenir, il ne fermera pas l'Opéra de Paris, et il leur donne quand même 95 millions de subventions.
Une proposition donc de Michel Guérin qui va prendre des gardes du corps à partir de ce soir, après cette annonce.
Il faut quand même rappeler une dernière chose, c'est que l'opéra n'est peut-être pas une forme très en vogue aujourd'hui. auprès d'un public large qui estime que souvent l'opéra c'est pour les privilégiés, etc. C'est assez abusif, c'est injuste, mais il faut quand même en tenir compte un petit peu.
Pour terminer avec vous, Michel Guérin, les festivals de musique ont été annulés cet été, on le sait, mais certains vont avoir lieu. Deux exemples parmi d'autres, le Festival international du piano de la Roque d'Anthéron ou celui plus modeste de l'abbaye de la Sainte-Trinité de l'Essé, abbaye bénédictine, je crois, dans la Manche, Michel Guérin.
Oui, deux festivals de musique classique déjà, c'est leur lien, ce sont des festivals, j'ai envie de dire, assez calmes. Et donc ça a pu jouer aussi, mais ce sont aussi des deux festivals qui sont plutôt petits, ça n'a rien à voir avec les grosses machines que sont le festival d'Avignon et celui d'Aix, et je crois que ce sont deux festivals qui ont pu attendre le plus longtemps possible en espérant que la situation sanitaire s'améliore, et comme elle s'est améliorée, ils ont pu se tenir. Alors, et puis ça, on peut dire que ce seront aussi de bons tests pour la rentrée de septembre, voir comment ça va se passer. Alors, la Roque d'Anthéron, qui est près d'Aix-en-Provence, c'est quand même le grand rescapé de l'été, on peut dire, parce que c'est quand même 76 000 entrées l'an dernier, et alors il y en aura moins cette année, parce que ils ont changé un peu quand même le format, ils l'ont un peu rétréci, hein. C'est dans un parc de 10 hectares, ils ont déplacé aussi le festival de juillet à août, hein. Il n'y aura pas d'orchestre, des petites formations d'orchestre, mais quasiment que des pianos seuls, voire des quatuors. La salle principale, si on peut appeler de salle, parce que c'est en plein air, il y aura 600 places au lieu de 2000, et la plupart des pianistes viendront de France. Donc c'est le cas classique, en fait, d'un festival qui revoit un peu tout à la baisse pour pouvoir se tenir, mais c'est quand même intéressant, parce que c'est quand même un gros festival. L'abbaye de l'Essé, c'est très intéressant pour une autre raison. Le festival s'appelle les Heures musicales, il aura lieu du 17 juillet au 14 août, parce que c'est un festival aussi sur la voix, donc des gens, des chanteurs solos qui chantent, et on sait très bien que la voix, c'est plus compliqué que jouer un instrument par rapport au Covid, enfin on imagine pourquoi. Alors là aussi ils ont réduit le public, hein. Alors c'est plus petit parce que la salle c'est dans une abbaye, au lieu d'avoir 600 places il n'y en aura que 300, et il y aura moins de coûts puisqu'ils ont un peu allégé l'offre, mais comme il y aura moins de recettes, ça peut se tenir. Mais ce qui est intéressant, c'est les choristes sur scène, ils seront espacés, hein, un peu plus espacés que d'habitude. Ils seront aussi plus espacés vis-à-vis des spectateurs. Mais pourquoi c'est possible? C'est possible parce que c'est une abbaye. Parce que c'est une abbaye, et dans l'abbaye, par son volume, la réverbération du son sur les murs, tout ça offre une acoustique très généreuse et précise et intéressante. L'abbaye, c'est un peu caisse de résonance. Et d'ailleurs, il y a un spectacle hein, cet été, notamment dans tout le programme de l'abbaye de l'Essé. C'est un spectacle avec 28 choristes. Alors 28 choristes, on se dit, mais comment les faire chanter ensemble? Eh bien, ils ne seront pas groupés face au public, ils seront éclatés dans l'abbaye, tout autour du transept. Les voix, en fait, elles viennent de toutes parts. Alors c'est plus compliqué, évidemment, pour la cohésion hein, et pour les diriger, mais c'est assez passionnant comme expérience, je pense, et ça va être intéressant à écouter. Car l'espacement, en fait, ne nuit pas du tout au son, là. C'est un peu comme s'il n'y avait que des solistes, en fait, dans l'abbaye. D'ailleurs, Olivier Mantéi, le directeur du festival de l'Essé, dit qu'il casse l'idée de chœur, mais qu'il garde la sensation chorale grâce à l'église. Enfin, bref, c'est un festival qui ne brade en rien, je crois. Et ça, c'est important. Ce sont que tous ces festivals qui ont lieu ne doivent pas brader leur programme, ne doivent pas faire au rabais, mais au niveau esthétique, en tout cas, que l'esthétique soit maintenue. Et c'est le cas. Et en plus, comme il y aura moins de public, je pense que le public se sentira mieux pour écouter.
Michel Guérin, journaliste au Monde, merci de votre présence ce soir dans cette émission. Au sommaire toujours de Soft Power dans les minutes qui viennent. À partir de 19h, on parlera numérique ce soir. Emmanuel Paquette de L'Express reviendra sur différents points d'actualité. Et puis le grand témoin ce soir sera Nicolas Brien de l'association France Digitale. Et juste avant, dans un instant, je recevrai Jean-David Blanc, invité média de France Culture ce soir. Et nous parlerons avec lui de Molotov notamment, et juste avant on parle podcast sur
con que nos traiga.
Can you just describe what just happened?
No tengo ni idea.
I have no idea, she says.
A man, as you're talking about that people just give him things, walked by and gave you, how much did he give you?
10.
Wow.
10 pesos.
¿Y por qué te dio eso?
Why did he give you that if he'd asked him? Darren gives a little shrug like, yeah, what can I say? Because he thought I was asking for a coin. His mom says,
Un mot sur la révolution des podcasts. C'est un podcast d'ailleurs qu'on écoute. On a souvent parlé des podcasts dans cette émission. Un petit point ce soir sur leur succès, car les podcasts ne cessent de croître en audience, comme l'atteste le succès par exemple de ceux de Radio France. On fait notre propre pub avec plusieurs millions de podcasts téléchargés en moyenne chaque mois, et en particulier pour France Culture avec plus de 30 millions d'écoutes à la demande par mois. Un succès également qualitatif et non pas seulement quantitatif, comme le confirme l'attribution du prestigieux prix Pulitzer récemment, et ce pour la première fois à un podcast. C'est un épisode de The Out Crowd qu'on écoutait à l'instant, cet extrait, en partie en espagnol, sur les immigrés clandestins mexicains et le droit d'asile aux États-Unis. Un podcast de This American Life, qui a obtenu en mai ce prix Pulitzer et dont on écoutait donc un extrait il y a un instant. En dépit de ces succès, les podcasts pourraient être à un tournant de leur modèle économique. Le Suédois et donc européen Spotify, le site de streaming musical aux presque 100 millions d'abonnés payants, devient un acteur clé du podcast. Spotify a racheté ces dernières semaines Gimlet Media, une start-up qui produit des podcasts, rachat pour, selon le Financial Times, 230 millions de dollars. La société produit notamment Reply All sur les technologies ou encore le thriller audio Homecoming, deux podcasts extrêmement écoutés. Spotify a également racheté la plateforme Anchor, un service qui fournit des outils de monétisation de podcasts. Pourquoi Spotify investit-il dans les podcasts qui devraient à terme, selon ses dirigeants, représenter près d'un quart de ses écoutes? D'abord, pour se développer et fidéliser une clientèle avec des contenus exclusifs très difficiles à avoir dans la musique. Ensuite, donc, pour concurrencer le géant Apple, et Apple Music notamment, qui a fait preuve, on peut le dire, d'un véritable abus de position dominante pour s'installer sur le segment du streaming audio ces derniers mois. L'Union européenne aurait d'ailleurs peut-être dû regarder de près ce lancement d'Apple Music, qui a été quasi imposé, par exemple, à tous les possesseurs d'iPhone ou d'ordinateurs Mac. Enfin, le podcast, c'est un modèle économique de plus pour Spotify. La rémunération passe par les contenus sponsorisés ou bien la publicité intégrée au début ou en cours de podcast, le soutien financier de fondations ou du mécénat, ou encore les dons via Patreon, par exemple. Ce modèle économique ne semble pas avoir été suffisant. Néanmoins, pour l'initiative d'un Français, Mathieu Gallet, ancien président de Radio France, qui avait lancé sa plateforme de production, de diffusion et de monétisation des podcasts, baptisée Magellan, et qui n'a pas trouvé, semble-t-il, son modèle économique. L'application vient d'annoncer Magellan dans un communiqué sera débranché, donc arrêté. La start-up semble avoir échoué, faute de consommateurs prêts à payer pour des podcasts. Magellan va tenter néanmoins de se réinventer et de survivre en lançant une nouvelle offre centrée sur l'accomplissement personnel. Un échec cuisant, même si à sa décharge, Magellan comptait pouvoir diffuser les podcasts, notamment ceux de Radio France, ce qui lui a été refusé, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre. Si les échecs sont nombreux et la concentration du marché en marche, si on peut dire, l'avenir des podcasts semble malgré tout, si on en croit un rapport de prospective récent du Wall Street Journal, malgré tout au beau fixe. L'audience des podcasts doublerait d'ici 2023, alors que le nombre de producteurs de podcasts se démultiplierait, que ce soit des professionnels ou bien des amateurs. La même étude montre que les podcasts les plus populaires sont produits souvent par des médias légitimes, classiques, comme le New York Times, National Public Radio, WNYC, This American Life ou encore par Radio France chez nous. L'audience des podcasts se concentre essentiellement sur le temps passé en voiture, ce qu'on appelle dans le jargon le drive time, mais aussi les transports en commun, l'exercice sportif et la marche à pied. Les smart speakers et les nouveaux dispositifs audio intégrés en voiture pourraient encore accélérer le développement du podcast. Si les abonnements au podcast semblent peu fonctionner et si le podcast payant ne marche pas non plus, le podcast à la demande en streaming progresse lui fortement. Pas besoin de s'abonner à un podcast, pas besoin de le télécharger, pas besoin d'utiliser l'espace mémoire de son smartphone grâce au cloud et généralement pas besoin de payer. Voilà pourquoi une partie de l'avenir des podcasts se joue sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Music, des services qui ont l'audience, le modèle économique et surtout des outils de recommandation par algorithme très performants. Mais ce type d'accord entre les producteurs de podcasts et ces géants du streaming devrait pouvoir se faire sur des accords financiers transparents, ce qui n'est pas toujours le cas, et je dirais gagnant gagnant, notamment sur le partage des revenus publicitaires, s'il y a lieu, et surtout sur le partage des données. Enfin, signalons dans ce domaine du streaming audio des succès et des échecs. Actuellement, le service d'abonnement de musique classique Qobuz se porte mal, comme Tidal, lancé en Suède, mais racheté par le rappeur américain Jay-Z, avec le soutien de Beyoncé, Madonna, etc., avec une meilleure qualité audio et, dit-on, une meilleure répartition des droits pour les artistes. Pourtant, Tidal n'a pas trouvé son modèle économique et semble désormais condamné. Le français Deezer, lui, n'est plus guère français depuis l'entrée à son capital en 2016 d'un actionnaire russo-américain devenu majoritaire. Sa survie face à Spotify est un enjeu des années à venir, peut-être un enjeu de souveraineté nationale française, quoique, puisqu'il n'est plus guère français. L'allemand SoundCloud, dans un autre registre, se développe et connaît, lui, un vrai succès en constante progression, notamment chez les artistes indépendants et amateurs. Mais là encore, le modèle économique reste à confirmer. Enfin, une dernière note sur cette question des podcasts et des services de musique en streaming. Note plus optimiste, le succès en ce moment de Idagio, un site streaming allemand spécialisé dans la musique classique. Le magazine Time a désigné Idagio l'une des meilleures innovations de l'année 2019. Une très bonne alternative à Spotify ou à Apple Music, certes de niche, mais pour ceux qui aiment la musique classique, c'est une aubaine. Voilà donc une bonne nouvelle.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Après la culture, les médias, nous sommes avec Jean-David Blanc, le fondateur de Molotov. Bonsoir monsieur.
Bonsoir Frédéric.
On vous a reçu par le passé dans cette émission et on voulait vous entendre ce soir pour évoquer à la fois le contexte de la possibilité de regarder de la télévision en streaming et aussi s'intéresser sur Molotov. Molotov qui est né en 2016, qui propose de réinventer la manière de regarder la télévision. Vous êtes un service de distribution des chaînes et de services de télévision, c'est ça ?
Oui, c'est amusant parce que je crois que j'étais venu à votre rencontre quelques mois à peine avant le lancement de Molotov en juillet 2016 et qu'on est un petit peu moins de 4 ans plus tard et Molotov compte presque 12 millions d'utilisateurs.
On aurait dû vous inviter plus souvent, vous voulez dire.
Non, pas du tout. C'est marrant de faire le pont entre le moment d'un moment de lancement et 4 ans après. C'est vrai qu'on s'interrogeait ensemble sur... Vous m'interrogiez sur l'utilité d'un service de distribution de télévision en streaming et en OTT, alors que personne à ce moment-là n'avait de problème pour capter la télévision. Et beaucoup de gens s'interrogeaient, y compris nous-mêmes, hein, on n'est pas toujours sûr de nous sur ce qu'on fait, mais néanmoins, sans jamais avoir fait de publicité, sauf très très récemment, il y a un nombre considérable de Français qui utilisent maintenant
la... Ça veut dire en gros que Molotov agrège sur sa plateforme les différentes chaînes de télévision qu'on peut regarder donc de façon linéaire mais aussi délinéarisée. Comment ça marche exactement ?
Oui, Molotov est une plateforme de streaming qui distribue l'ensemble des programmes des chaînes de télévision, qu'ils soient en live ou en replay. Elle est gratuite, fonctionne comme Netflix par exemple ou d'autres plateformes de streaming sur tous les écrans. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle permet de naviguer parmi les programmes de l'ensemble des chaînes de télé, par thème, par genre, par exemple. Elle permet de revenir au début d'un programme quand on a raté le début, d'enregistrer dans le cloud pour le regarder plus tard, de rechercher un programme ou de le retrouver par une personne qui a participé à ce programme, d'accéder à la télévision partout en France et aussi en Europe, la télévision française, et beaucoup d'autres choses. Voilà. Molotov rassemble, organise en quelque sorte l'offre pléthorique de programmes de télé diffusés sur l'ensemble des chaînes. Et il y en a près de 200.
Molotov, quel a été son impact durant la crise du Covid-19 et le confinement ?
Ben, comme toute la consommation de choses à la maison, ça a considérablement augmenté. On a gagné 1 million de nouveaux utilisateurs pendant la crise du Covid. Alors, on est en croissance en règle générale, mais là, ça s'est accéléré de 30 ou 40%. La consommation individuelle, du temps passé individuel, a augmenté de 26%. La consommation globale de la plateforme a augmenté de 60%. Donc, c'est des chiffres qui sont très importants. Et puis, on n'est pas retombé derrière. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que ça a continué à accélérer la dynamique.
Quel est le modèle économique de Molotov ? Regarder les chaînes classiques depuis votre plateforme est gratuit. Pourquoi est-ce qu'on s'abonnerait si, au fond, pourquoi on aurait besoin d'un compte si c'est gratuit ?
Parce qu'il y a tout un tas de choses que vous pouvez acheter autour des chaînes gratuites. Si vous voulez, les chaînes gratuites, c'est ce qu'offre la télévision dite gratuite, celle au travers de l'antenne TNT. Et on a toujours souhaité chez Molotov reproduire dans le monde digital ce qui existe dans le monde non digital, à la fois en termes d'usage et en termes de gratuité. On voulait pas facturer l'accès aux chaînes qui sont gratuites. En revanche, autour des chaînes gratuites, il y a toute une série de services ou toute une série de chaînes payantes, je vais y revenir, que vous pouvez ajouter en option à Molotov. Alors, dans les services, c'est la possibilité d'avoir de la HD ou de la 4K, c'est la possibilité d'enregistrer un programme pour le voir plus tard, c'est la possibilité de pouvoir le regarder sans connexion à Internet, c'est la possibilité de voyager en dehors de France et pouvoir continuer à accéder à la plateforme. En termes de chaînes complémentaires, eh bien, c'est toute l'offre de chaînes payantes qui existe sur le marché, que ce soit OCS, Ciné+, des chaînes de musique classique, de sport, de dessins animés, que vous prenez en option et que vous rajoutez à l'offre de base.
Mais
Donc,
pour
le
être.
service dit freemium, pardon?
Question un peu naïve, mais si j'ai déjà ça sur Orange ou sur Free ou sur Bouygues, quel est l'intérêt d'essayer de l'avoir en plus sur Molotov?
Vous l'avez d'une part dans votre box, elle est attachée à votre télévision, c'est un peu compliqué de l'avoir sur vos smartphones, tablettes, autres postes de télévision. Ça devient une box dématérialisée, si vous voulez. Vous êtes utilisateur de Molotov, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel écran connecté, ordinateur, tablette, smartphone, téléviseur connecté, quel que soit le nombre de télés que vous ayez à la maison et quel que soit l'endroit où vous allez. Disons par exemple, vous enregistrez un programme à Paris. Vous allez à la campagne, vous êtes dans votre taxi, vous êtes dans le train, ou vous allez même en dehors de France, en Europe, et bien vous continuez à regarder un programme qui vous suit partout. Un peu comme vous parliez il y a 2 minutes de Spotify ou de Netflix, c'est une box dématérialisée.
Vous allez
Et puis
proposer.
l'ergonomie qui a été imaginée dans Molotov et qui est brevetée d'ailleurs, permet une navigation dans les chaînes quand c'est sorti, c'était complètement révolutionnaire.
Vous allez proposer bientôt la location ou l'achat de films, de séries, de documentaires, c'est ça?
On propose déjà des chaînes payantes qui rajoutent des contenus et des films, des documentaires, des films, des émissions, au travers soit d'abonnements et soit à l'acte, ouais.
Pour faire une sorte de résumé un peu grossier, donc Molotov est à l'intersection entre la chaîne de télévision traditionnelle, que l'on regarde en direct et de façon linéaire, et les plateformes de streaming et de VOD avec l'accès à un vaste catalogue. On sait que M6 et TF1 prévoient la création de Salto, cette plateforme commune de diffusion de leurs programmes et de leurs créations. Vous avez saisi l'autorité de la concurrence pour abus de position dominante sur ce sujet. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de Molotov face à Salto? Et est-ce qu'on peut imaginer que deux services de ce type vont se faire face cet automne?
Ben oui, assez bien. D'ailleurs, la concurrence, c'est très bien.
C'est bien, mais vous les traînez au tribunal.
Non, alors, c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. Que Salto existe, c'est une très bonne chose parce que toute concurrence est bonne dès lors qu'elle est loyale. Et au contraire, ça ouvre un marché. On l'a toujours vu, ça fait progresser. Et c'est tant mieux. C'est d'ailleurs même un hommage à Molotov que de lancer un deuxième Molotov 4 ans après Molotov. Et c'est formidable. On part un peu avec un peu d'avance, qu'on a 12 millions d'utilisateurs maintenant. D'après ce que j'ai compris, mais les choses sont pas encore claires, Salto va être payant, Molotov, lui, reste gratuit pour que les chaînes gratuites le restent. L'action auprès de l'autorité de la concurrence s'adresse plutôt aux maires de Salto, c'est-à-dire aux chaînes qui constituent Salto, qui ont, comme par hasard, souhaité interrompre la distribution de leurs chaînes sur Molotov. Et là, évidemment,
Vous n'êtes pas d'accord.
C'était évidemment un acte de concurrence un peu déloyal. Donc, on a saisi l'autorité. L'autorité nous a entendus puisque au moment où on a saisi l'autorité, juste après, pour obtenir son autorisation, l'autorité a exigé des maires de Salto qu'elle laisse l'accès à leur chaîne à d'autres distributeurs, dont Molotov. Donc, notre saisine, qui était avant cette décision n'avait plus lieu d'être. Donc maintenant, ce qui nous intéresse avec l'autorité, c'est de voir de quelle façon les chaînes mères de Salto vont appliquer les obligations qui leur ont été données par l'autorité.
Merci Jean-David Blanc, fondateur de Molotov, qui connaît donc un succès important qui a été décuplé durant le confinement. Molotov, donc un deuxième Salto, ou plutôt Salto, un deuxième Molotov. Merci infiniment d'avoir été notre invité média ce soir. France Culture, il est précisément 19h. On parle numérique juste après, numérique avec un grand témoin, ainsi que l'actualité aussi avec Emmanuel Paquette. Et juste avant, The Strokes, The Adults Are Talking.
They've been saying those sophisticated.
Talking, un extrait du nouvel album de The Strokes. Groupe new-yorkais formé à la fin des années 90. Après une traversée du désert, la bande a Julian Casablancas. Le chanteur sort donc son sixième album qui a réussi à se hisser à la 8e place du Billboard tout récemment. On peut dire que c'est un album de la maturité et les 5 quadragénaires le font sonner en quelque sorte comme un retour rock des années 2000. C'est d'ailleurs magnifique et en puisant dans de nombreuses références allant du Velvet Underground à Nirvana mais aussi de Chris Martin à Bono, ils arrivent à garder leur originalité. The Strokes sur France Culture.
France Culture, soft power. Frédéric Martel.
19h03 en direct sur France Culture dans Soft Power. On parle maintenant numérique dans la dernière séquence de cette émission ce soir. Numérique avec un grand témoin, Nicolas Brien, directeur général de France Digital, dans quelques minutes. Mais juste avant, l'actualité du numérique avec Emmanuel Paquette, journaliste à L'Express. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
Après donc la culture, la politique culturelle et la télévision, venons-en au numérique. Troisième séquence de cette émission. Pour commencer, cette série d'annonces de géants du numérique, Microsoft, Amazon ou IBM, qui annoncent séparément, mais au même moment, la suspension des programmes de reconnaissance faciale qui étaient proposés, Emmanuel Paquette, à la police américaine.
Oui, effectivement. Alors le bal a été ouvert par IBM qui a commencé à envoyer une lettre au Congrès américain pour dire qu'il arrêtait toute sa recherche, son développement et la commercialisation de services de reconnaissance faciale. Le lendemain, c'est Amazon qui a embrayé, cette fois en mettant en place un moratoire sur son offre qui s'appelle Recognition, qui équipe déjà aujourd'hui les forces de l'ordre aux États-Unis. Et puis, 24 heures après, c'était au tour de Microsoft de dire que cette fois-ci, le géant de Seattle décidait de suspendre la vente aux forces de l'ordre de son système de reconnaissance faciale jusqu'à ce qu'un système juridique, enfin une loi, encadre les usages de cette technologie. Donc on voit aujourd'hui que l'affaire George Floyd, hein, ce noir américain qui a été tué par un policier, a fait beaucoup plus sur l'arrêt de la reconnaissance faciale aux États-Unis que les demandes qui ont pu être faites par des salariés en interne de chez Microsoft ou de chez Amazon, ou même de certains actionnaires, ainsi que des associations de protection des libertés individuelles pour arrêter d'équiper les forces de l'ordre de systèmes de reconnaissance faciale. Qui ont fait ces demandes déjà depuis plusieurs mois. Alors pourquoi ? Il faut savoir que l'Union américaine pour les libertés civiles, donc l'ACLU, avait fait un test déjà en 2018 avec la la technologie Amazon de reconnaissance faciale. En fait, ils avaient pris simplement les images des congressmen, donc les représentants au Congrès américain, donc les élus, et parmi en passant à la moulinette en fait les photos sur un mug de ces élus, il se trouve que 28 congressmen avaient été reconnus par le logiciel comme étant des criminels, alors que ce n'était évidemment pas le cas. Alors essentiellement dans les 28 personnes qui avaient été reconnues par le système de reconnaissance faciale, il y avait des noirs américains et des hispano-américains, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui les algorithmes de reconnaissance faciale ont certains biais de programmation et fait qu'ils fonctionnent assez bien sur la reconnaissance faciale de blancs, d'hommes, de personnes ou de femmes blanches, mais beaucoup moins quand il s'agit de personnes de couleur. On arrive à des taux d'erreur de 20 à 39%, donc ce qui est énorme, d'où en fait ce qu'a essayé de démontrer l'Union américaine pour les libertés civiles en demandant l'arrêt d'utilisation de ces technologies. Alors si les trois géants américains ont décidé d'arrêter ou de suspendre l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale, d'autres sociétés, elles, continuent et se justifient en estimant que aujourd'hui leur technologie aide les forces de l'ordre. NEC, par exemple, la société japonaise, continue de commercialiser sa technologie. Et puis une autre entreprise qui avait fait parler d'elle, qui s'appelle Clearview. Clearview avait même utilisé en fait les photos sur Instagram ou sur Facebook pour entraîner son système de reconnaissance faciale pour avoir une base de données bien plus large que celle dont bénéficient aujourd'hui les forces de police. Donc on voit aujourd'hui deux types d'attitudes. Certaines sociétés qui préfèrent arrêter ou suspendre le temps qu'une loi soit votée qui encadre l'utilisation de ces technologies. D'autres qui continuent en attendant que la loi évolue très probablement dans les prochains mois.
Autre sujet numérique ce soir, et ça concerne aussi Twitter. Twitter qui fait le ménage, le réseau social de Jack Dorsey, annonce la suspension de près de 150 000 comptes soupçonnés de propagande pro-chinoise sur le coronavirus notamment, mais aussi sur la question de Hong Kong. Emmanuel Paquette.
Oui, effectivement, le réseau social a décidé de fermer plusieurs comptes. En réalité, c'était trois types de propagande différentes. Une propagande qui appuyait la République populaire de Chine, un autre type de propagande qui soutenait plutôt le pouvoir en place en Turquie, et une troisième type de propagande qui était plutôt à destination des Russes. Alors, le plus important des maillons en fait de cette chaîne de désinformation ou de manipulation de l'information, c'était concernant la Chine, puisque 32 242 comptes ont été repérés par Twitter pour mettre en avant des informations très positives sur le réseau social en ce qui concerne le gouvernement chinois. Et ces 32 000 comptes étaient relayés à leur tour par à peu près 150 000 comptes pour amplifier et relayer toute la bonne parole pro-chinoise sur le réseau social. Alors effectivement, c'était pour d'une part dire que le gouvernement chinois avait très bien réagi lors de l'épidémie de coronavirus qui était née à Wuhan en fin d'année dernière. Et l'autre élément, effectivement, c'était des éléments de propagande contre l'appel à plus de démocratie à Hong Kong et à l'encontre des manifestants, puisqu'aujourd'hui encore, après la période de confinement qu'il y a pu avoir à Hong Kong, les manifestations ont repris pour demander plus de pouvoir et plus de démocratie à Hong Kong contre l'aval de Pékin. Donc on voit aujourd'hui que Twitter est toujours obligé de faire le nettoyage sur son réseau, comme le fait également Facebook, et qu'ils ont mis en place un nouveau système de messages, de rappel à l'ordre vis-à-vis des internautes en disant « lisez avant de partager, donc avant de pouvoir retweeter des informations, lisez bien les tweets parce qu'il peut s'agir simplement de propagande, que ce soit pour des régimes étatiques et extérieurs à la France, mais ça pourrait aussi concerner directement le pouvoir politique en place ».
Sans transition, disons, de la Chine au film porno, amendement d'apparence bénigne, mais aux effets considérables, peut-être pour des millions de Français. Le Sénat a adopté jeudi, un amendement avec le soutien de La République En Marche qui contraindrait, s'il était confirmé à l'Assemblée nationale, les plateformes pornographiques comme YouPorn, Pornhub ou RedTube à vérifier l'âge légal des internautes, à savoir 18 ans. Un débat complexe, Emmanuel Paquette, quand on sait que ces trois sites porno, tous hébergés à l'étranger, arrive régulièrement parmi les 10 meilleures audiences du web français.
Oui, effectivement. Alors, il faut savoir que ce type d'initiative a été demandé par le président de la République lui-même lors d'un discours à l'UNESCO il y a à peu près plusieurs mois de cela, où il avait demandé à ce qu'il y ait une autorégulation des plateformes Internet pour éviter que les enfants, les mineurs de moins de 18 ans puissent se connecter et tomber par hasard sur ce type de site, puisque aujourd'hui la seule barrière à l'entrée de ces sites, c'est de dire simplement qu'on est majeur en cliquant sur un bouton. Là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Donc l'amendement propose de faire en sorte qu'il y ait un espèce de blocage à l'entrée de ces sites. Alors ce blocage peut prendre différentes formes. L'amendement propose deux types de solutions technologiques, mais qui sont pas aujourd'hui satisfaisantes. La première, c'est d'utiliser le système France Connect. Donc c'est le même système qui aujourd'hui vous permet de déclarer vos impôts. Autant dire que les gens n'ont pas vraiment envie de donner leur goût en matière pornographique en même temps que leur déclaration d'impôts, et de mêler les deux types de données. Donc il est peu probable que ça soit ce type de technologie qui soit retenu. Et l'autre type de technologie, c'est simplement donner son numéro de carte bancaire pour pouvoir être identifié comme un adulte et pour pouvoir accéder à ces sites internet. Alors il faut savoir aujourd'hui que ce dispositif serait mis entre les mains du CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, aurait pour but de bien vérifier que ces sites sont en règle avec la loi. Et si ce n'est pas le cas, le CSA pourrait demander le blocage de ces sites par un juge. Donc on voit que ce dispositif peut aller assez loin. Alors juste un gros problème, c'est que l'Angleterre, le Royaume-Uni, a tenté de faire la même chose l'année dernière et finalement a fait marche arrière devant les difficultés de mettre en place un tel système, et surtout contre le fait que beaucoup de sociétés, d'associations pour les libertés individuelles sont montées au créneau, estimant que donner sa carte bleue ou d'autres systèmes qui peuvent en gros identifier la personne qui est derrière est extrêmement dangereuse, puisque derrière, s'il peut y avoir des fuites de données, et on pourrait savoir qui regarde quoi, à quelle heure, depuis quel type d'ordinateur ou quel type de téléphone. Donc le gouvernement est revenu en arrière en Angleterre, ce qui n'est, et puis il y a une deuxième raison pour laquelle le Royaume-Uni a dû faire marche arrière, c'est que effectivement on parle des sites pornographiques comme étant les premiers vecteurs de contenu à caractère adulte, mais il faut savoir aussi que des plateformes plus neutres comme Twitter, dont on parlait précédemment, Reddit ou Instagram, peuvent véhiculer aussi des photos ou des vidéos pornographiques. Et là, il y avait un vide juridique au niveau du Royaume-Uni de savoir comment on fait pour Twitter, comment on fait pour d'autres plateformes plus grand public, pour bloquer le contenu qui passe sur ces plateformes, qui n'est pas un contenu qui est à la base de ces plateformes, mais qui circule tout de même sur ces plateformes. Donc finalement, le gouvernement a décidé de faire machine arrière. On va voir si la France est en train de créer un débat sur une problématique pour rien, sachant, et dernier point, qu'il y a aussi des modalités techniques qui permettent d'outrepasser ce type d'identification, qui est l'usage de VPN. Donc c'est un réseau privé virtuel qui permettrait d'accéder directement à ces sites sans se signaler comme étant majeur.
Pour essayer de régler un problème, on en crée de nouveaux, parce que si beaucoup, des millions de gens utilisent des VPN, eh bien évidemment sur un VPN il peut y avoir aussi du terrorisme, des sites pédophiles, etc. Donc je ne sais pas si ça sera la solution. En tout cas, France Connect, personne ne savait ce que c'était, mais on imagine déjà la campagne de publicité « Payez vos impôts et regardez YouPorn » grâce à France Connect. On verra la suite. Terminons, Emmanuel Paquette, avec un sujet média et l'arrivée inattendue de Denis Oliven, ancien patron de la FNAC, numéro 2 d'Air France, ancien DG du Nouvel Obs, et du groupe média Lagardère, ou encore plus récemment du groupe tchèque de Daniel Kretinsky, notamment Marianne, à la tête, mais oui, de Libé, Libération. Ça perd l'hypopète, Emmanuel.
Oui, effectivement, Denis Oliven a été nommé co-gérant de Libération, à la grande surprise des journalistes qui l'ont découvert au dernier moment. Alors il faut savoir que Denis Oliven arrive dans une période un peu compliquée, puisque l'actionnaire majoritaire aujourd'hui de Libération, donc le groupe Altice, a décidé de créer un fonds de dotation pour y transférer Libération d'ici au plus tard ou au plus tôt au mois de septembre. L'idée de ce fonds de dotation, c'est de faire en sorte que le capital de Libération ne soit pas cessible et que le journal reste pour toujours indépendant. Denis Oliven prendrait la tête dans un deuxième temps, deviendrait le président de Presse Indépendante SA, qui serait en gros la structure qui managerait Libération au sein du fonds de dotation. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, cette création suscite beaucoup d'interrogations et de craintes de la part des journalistes, puisqu'on ne sait pas exactement quelles seront les modalités de création de cette fondation, et surtout de combien d'argent elle va bénéficier pour pouvoir faire vivre Libération pendant plusieurs mois ou plusieurs années, puisque une fois que l'argent a été siphonné, entre guillemets, dans l'activité de Libération, si personne ne remet au pot, Libération pourrait être en cessation de paiement et faire faillite, malgré le fait d'être indépendant. Donc pour ça, il devrait faire appel à des mécènes qui pourraient donner de l'argent à ce fonds de dotation, mais sans avoir le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur du journal. Donc on va voir ce que Denis Oliven va pouvoir mettre en place et comment il va pouvoir rassurer les journalistes face à cette nouvelle structure qui devrait voir le jour dans les prochains mois.
Merci Emmanuel Paquette, à la semaine prochaine. 19h15 en direct sur France Culture. J'accueille maintenant notre grand témoin de ce soir, Nicolas Brien, directeur général de France Digital. Bonsoir monsieur.
Bonsoir Frédéric.
Directeur général de France Digital. France Digital, c'est une association qui fait quoi ?
C'est le plus grand réseau de start-up en Europe. On aide en fait tout un écosystème de PME technologiques, parce que c'est le nom français pour start-up. On les aide à trouver leur financement, à décrocher des contrats, à recruter, à trouver le bon cadre de régulation.
France Digital, donc une association qui regroupe, vous l'avez dit, des start-up, plusieurs milliers, c'est ça, 1800 à peu près ?
1800, très exactement.
Par rapport au MEDEF, qui a son rôle, par rapport au Conseil National du Numérique, qui est plus étatique, par rapport à la French Tech, comment vous vous positionnez ?
Nous, en fait, on s'est positionné à partir d'un constat très simple. On considère que les start-up créent du neuf et que, par conséquent, les cadres de régulation n'étaient pas toujours adaptés par rapport aux nouveautés technologiques qui étaient apportées par les start-up. Et on essaye de porter ce que les Anglais appellent des future-proof regulation. En bon français, c'est la capacité à penser des régulations qui vont résister à l'épreuve du futur. En gros, qu'on n'ait pas besoin, à chaque fois qu'une start-up crée quelque chose de nouveau, de refaire une régulation. Ça nous paraît particulièrement important à un moment où les vagues de progrès technologiques se succèdent les unes après les autres.
Alors Nicolas Brien, vous êtes, je l'ai dit, directeur général de France Digital. On peut considérer une sorte de porte-parole des start-up françaises. Traitons avec vous quelques questions ce soir. D'abord, la question de ce qui s'est passé ces dernières semaines durant le confinement. Comment vous voyez, que s'est-il passé de la part autour des start-up ? Quelle a été leur adaptation ? Les start-up ont-elles été agiles ? Le télétravail, la façon de travailler à distance, les outils numériques, etc. Qu'est-ce que vous avez observé ?
Le confinement, si on regarde bien ce qui s'est passé, tout s'est joué autour de ce concept de distanciation sociale. En réalité, vous n'avez pas eu de distanciation sociale, vous avez eu une distanciation physique, mais la plupart de nos usages, la plupart de nos modes de production, de consommation, de nos interactions sociales ont basculé dans la sphère numérique. Et que l'on soit de Pointe-à-Pitre ou de Montluçon, de Paris ou de New York, il y a eu un grand bond en avant numérique. Et les startups qui, par essence, baignent là-dedans, ont été un petit peu mieux armées, un petit peu mieux préparées quand il a fallu faire face à ce grand bond en avant numérique. Je vous donne un exemple très simple. Dans les startups, on estime qu'il y avait déjà à peu près un tiers des boîtes qui avaient au moins un salarié à 100% en télétravail. Et donc quand il a fallu, du jour au lendemain, après les annonces du confinement, basculer à fond en télétravail, eh bien ça a été un peu moins dur pour ces petites entreprises assez âgées. Et puis au niveau des usages, on a tous basculé, découvert, exploré des nouveaux usages numériques, et souvent c'était des usages de start-up. J'aime bien citer Doctolib, hein, qui est une plateforme qui met en relation les patients et les médecins. Doctolib pendant la période du confinement, s'est retrouvé face à 3,5 millions de téléconsultations, de consultations en ligne, alors que d'habitude, ils en faisaient à peine une centaine de milliers.
Nicolas Brien, vous êtes représentant de France Digital. Vous venez de parler à l'instant d'un grand bond, je vous cite, des usages numériques. Vous parlez d'une explosion de ces usages. Question cruciale du coup, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va disparaître de ces usages qu'on a connus durant le confinement ?
Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a quand même vécu la plus grande mutation que le monde du travail ait connue au cours des dernières décennies. C'est ce passage, en l'espace de 2 semaines, de 800 000 télétravailleurs à 8 millions de télétravailleurs. Quand on regarde à l'échelle de l'histoire de l'humanité, on a rarement connu des mutations sociologiques aussi importantes. L'exode des ruraux vers les usines à l'époque de la révolution industrielle, ça a mis des dizaines, voire même des siècles. Là, en l'espace de 2 semaines, on a eu cette mutation très profonde. Ça, je pense que c'est parti pour durer, et ça aura des conséquences assez immenses. Typiquement, la culture du petit chef, va prendre un sacré coup dans l'aile du fait du télétravail. Le triptyque issu des 30 Glorieuses, métro, boulot, dodo, là encore, va prendre un sacré coup dans l'aile et on verra probablement de nouvelles hiérarchies, de nouvelles manières d'organiser le travail. Pour le meilleur et pour le pire, moi, à titre personnel, je pense qu'il faudrait un vrai Grenelle du télétravail pour notamment évoquer la question du partage de la valeur ajoutée créée par ces nouvelles organisations du travail. Exemple simple, si demain les entreprises basculent une partie de leurs salariés en télétravail, elles vont faire des économies de bureaux, d'immobilier commercial. Est-ce que ces économies doivent être réinvesties dans de la transformation technologique? Est-ce que ces économies doivent être distribuées sous forme d'augmentation de salaire pour permettre par exemple aux salariés de s'équiper chez eux? Ou bien est-ce que ça va atterrir demain dans la poche des actionnaires sous forme de dividendes? Ce sont des questions éminemment importantes, éminemment sociales et qui mériteraient d'être posées dans le cadre d'un Grenelle du télétravail.
Et ce qui va disparaître, selon vous, qui n'aura pas continué à fonctionner après le confinement?
Vous connaissez la formule, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Moi, je souhaite qu'il y ait un maximum de choses qui se préservent. Je pense par exemple à nos commerces de centre-ville. Ils ont l'occasion unique de se réinventer. Moi, j'ai été très surpris de voir plusieurs dizaines, plusieurs centaines de petits commerces d'un seul coup basculer dans une ère numérique en créant un petit site internet de briques et de broc et en se mettant à la commande en ligne. C'était le seul moyen pour eux pendant le confinement de poursuivre une activité, et ça, je pense que ça doit porter quelques messages d'espoir. Je prends souvent cet exemple, c'est Rungis. Rungis, c'est le cœur de la France, c'est le marché de la France, et pour la première fois, du fait du confinement, ils se sont mis à vendre en ligne. Vous avez également une autre institution vénérable comme le Quai d'Orsay qui s'est mis pour la première fois de son existence séculaire à télétravailler. Ça, ce sont des choses qui vont rester, ce sont des changements qui peuvent être extrêmement intéressants.
Alors qu'auparavant, au Quai d'Orsay, on refusait que quelqu'un utilise une adresse email du Quai d'Orsay à l'extérieur de son bureau, ce qui évidemment devenait compliqué pour des ambassadeurs cloués chez eux. Et donc, il a fallu tout à coup libérer les ordinateurs et permettre à ce que les adresses email puissent être consultées d'autres ordinateurs à domicile. Nicolas Brien, je rappelle que vous êtes directeur général de France Digital, une association de l'Homme 901 qui, au fond, regroupe et vous êtes un peu le porte-parole finalement de 1800 startups françaises. Venons-en à la crise qu'elles ont rencontrée. Certaines, on l'a dit, s'en sont très bien sorties. D'autres ont plus de difficultés. Des mesures ont été annoncées par le gouvernement. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Qu'est-ce qui marche au fond dans le modèle français? Et qu'est-ce qui peine à fonctionner? Qu'est-ce qu'il faudrait changer en termes de fiscalité, d'aide aux startups, les forces et fragilités du web français? C'est un sujet très vaste, mais vous pouvez peut-être nous indiquer quelques pistes.
Le gouvernement a réagi assez vite, mais a souvent réagi avec les outils qui étaient sur la table. Et les outils qui sont sur la table, souvent pour les gouvernements, ce sont les outils hérités des crises précédentes. Donc la dernière crise qu'on a connue, c'était celle de 2008, c'était une crise financière. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans la réaction gouvernementale, il y a eu beaucoup de choses autour du crédit. On a eu des garanties de prêts, des prêts relais, toutes sortes de dispositifs liés à de la dette qui, à mon sens, sont utiles. Mais est-ce que c'est suffisant? Clairement non. La dette, par définition, on ne fait que reporter le problème. Là, je pense qu'il faut tirer les leçons du confinement. Et si vous me permettez de prendre un peu de hauteur, il faut se dire une chose, c'est que le coronavirus, c'est une répétition générale. Le coronavirus en 2020, c'est la répétition générale de ce que l'on va connaître tout au long du 21e siècle. C'est avéré, le changement climatique va multiplier les vagues épidémiologiques et les phénomènes climatiques extrêmes qui font qu'on va se retrouver de plus en plus dans des situations, comme on a connu avec le confinement, de rupture brutale de l'activité humaine. Et pour faire face à ces ruptures brutales de la continuité de nos services publics, de nos activités économiques, de la rupture même du lien social, on ne pourra le faire qu'à travers des usages numériques. Et donc c'est pour ça que moi je dis souvent le monde d'après marche sur deux jambes, transition environnementale et transformation numérique. Et donc si j'avais des recommandations à produire à nos gouvernants, je dirais préparer préparer ces ruptures qui viennent, parce que aujourd'hui c'est le coronavirus qui nous oblige à mettre tout sur pause, mais demain ce seront peut-être, souvenez-vous, les feux de forêt en Australie, souvenez-vous les ouragans, et le seul moyen de maintenir une continuité de l'activité économique, une continuité du lien social, une continuité des services publics, ça passe à travers le numérique, et ça demande un grand plan d'équipement. On n'était pas prêt pendant le confinement, on n'était pas prêt. On l'a vu avec l'éducation nationale, des centaines de milliers de gamins qui n'ont pas pu suivre les cours en ligne parce qu'ils n'avaient tout simplement pas accès à ces outils-là. On l'a vu, je l'ai dit, avec y compris la remontée des données sur le coronavirus par les agences régionales de santé ou les EHPAD, tout simplement les systèmes d'information n'étaient pas équipés, ça a été très très compliqué à mettre en place. Donc de multiples manières, on n'était pas prêt.
Grande répétition
exactement.
Générale, donc pour terminer,
le rôle de la puissance publique, ce sera vraiment ce réarmement technologique. On était désarmés. À présent, la puissance publique doit nous réarmer technologiquement, nous entraîner vers un vaste plan de remise à niveau des acteurs publics et privés dans la sphère numérique.
Nicolas Brien, je termine avec une dernière question, très brièvement si possible. Vous venez d'être missionné avec quelques personnalités par le Premier ministre pour réaliser un audit autour des travailleurs des plateformes en particulier. De quoi s'agit-il et quels sont les enjeux attendus pour cette mission, très très vite s'il vous plaît?
Pendant le confinement, les Français ont pris conscience de l'utilité sociale de certains métiers mal payés, mal valorisés, mal aimés même parfois. Ce fut le cas de nos éboueurs, nos soignants. Mais il n'y a pas eu d'applaudissements pour les livreurs, les chauffeurs et pour de nombreux travailleurs des plateformes qui ont acquis en quelques années une place importante dans nos vies. Et le rôle de cette mission qui nous a été confiée, nous sommes 9 dans cette mission, c'est de mettre le sujet vraiment au cœur des débats et de sortir enfin quelques pistes de régulation, de statut qui correspondent en fait à la place capitale que les travailleurs des plateformes ont pris dans nos vies.
Un rapport pour travailler, enfin pour voir comment fonctionnent les travailleurs du clic d'une certaine manière. Merci infiniment Nicolas Brien, je rappelle que vous êtes le directeur général de France Digital, d'avoir été avec nous ce soir. On a choisi de se quitter ce soir avec le morceau Need You Now du groupe Lady Antebellum, dont le nom, on le sait, fait référence à l'Amérique d'avant la guerre civile, une Amérique pour une part raciste et esclavagiste. Le groupe qui vient d'annoncer justement qu'il changeait précisément de nom. Fini la référence à l'Amérique Antebellum, le groupe Lady Antebellum s'appellera désormais Lady A. Voilà, on en reste là pour ce soir. Merci infiniment à nos invités, chroniqueurs Zoé Sfez, Michel Guérin, Jean-David Blanc, Emmanuel Paquette et Nicolas Brien. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. La semaine prochaine, on parlera musique dans Soft Power. Bonne fin de week-end, prenez soin de vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.